C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, avant d'aborder le menu de ce matin, dont le rapport des commissaires, il y a une précision qui s'impose en ce début de commission, Nathalie.
Hier, en discutant du verdict d'agression sexuelle d'Harold Lebel, Paul, je t'ai mentionné que je le faisais en mettant des gants blancs jusqu'au coude. J'aurais dû en mettre deux paires. Nos échanges sur le système judiciaire ont pu être perçus comme une banalisation des gestes subis par la victime. Or, ce n'est absolument pas le cas. Les faits sont clairs puisque Harold Lebel a été déclaré coupable.
OK, Luc.
Ah, ben, je suis bien content que tu dises ça à la télé parce que moi aussi, même chose. Là. On a reçu des messages, tout ça, puis je me suis questionné sur ce qu'on a dit hier. Puis, tu sais, on a dit que la victime avait bien fait de porter plainte au système de justice, commençant en disant ça, puis c'est ça qu'il aurait fallu dire. C'est ça l'essentiel. Elle a bien fait. On sortait du mouvement MeToo. Là, on a une victime qui porte plainte au système de justice. Ça se passe devant le jury. Et là, on a remis en cause la lourdeur du système de justice. Ben, c'était peut-être pas le moment. Tu sais, on aurait dû prendre nos commentaires, en tout cas pas à ce moment-là, pas juste sur un cas, sur un ensemble de cas, plus loin, pas le lendemain d'une décision. Fait que moi, je suis d'accord aussi avec ta précision, puis je fais la mienne aussi.
Parfait, on va sauter sur le premier sujet. C'est assez étonnant ce qui se passe à la STM, parce que d'un côté, on nous annonce pour l'été prochain la gratuité du service pour les gens de 65 ans et plus, puis en même temps, on nous dit que on prévoit réduire le service en 2023. Luc.
Oui, puis en plus, on sait que ça va coûter 40 millions pour la gratuité. Ben, 40 millions de revenus en moins. C'est pas 40 millions de dépenses en plus. Là. Ça coûtera rien parce que les autobus, ils roulent. Les autobus, ils roulent, le métro, ils roulent. Fait que là, mais tu te prives de 40 millions de dollars de revenus. Et là, moi, je me suis dit, ah, ça va bien avec la STM. Ils ont repris leurs chiffres, puis ça. Puis après, quand on lit les détails, puis on s'aperçoit, oups, non seulement non, ça n'a pas repris, puis pas entièrement, on est à 70 % de taux d'achalandage, donc il manque 30 % de revenus liés aux usagers. Puis en plus, on parle d'un cette décision-là de couper le service va juste rapporter 18 millions. Fait qu'il faut qu'on fasse un ensemble d'autres décisions, comme de couper du personnel qui travaille dans le développement des nouveaux projets. Fait que finalement, ça coûte cher en Simonac compte tenu des circonstances. C'est une décision surprenante. L'autre affaire, c'est que la STM est dans chenoute, malheureusement. C'est pas de sa faute pour ça, pour ce bout-là. Il y a des bouts qui sont de sa faute, mais là, il y a une question. Là, c'est la pandémie. On est revenu à 70 % d'achalandage. Mais il faut regarder dans les détails pour comprendre combien c'est dramatique. Parce que l'achalandage qui nous manque, c'est l'achalandage vers le centre-ville. Un achalandage qui se fait par métro. Donc, le métro, il roule pareil. On fait aucun gain en perdant le 30 %. Si tu sers 30 % moins de repas, ça va te coûter un peu moins cher. Si tu sers 30 % moins de nuit d'hôtel, ça va te coûter un peu moins cher. Mais là, non, tu es obligé de faire rouler le métro avec quelqu'un qui le conduit. Donc, il n'y a aucun gain à perdre. Il n'y a aucune économie à faire avec ces 30 %-là. En moins, c'est juste un coût brut, une perte de revenus brute. Puis je donnerai d'autres détails après.
OK.
Ben, il y a deux points. La première, c'est qu'il y a apparence de contradiction entre le fait d'offrir la gratuité pour les 65 ans et plus et le fait d'envisager une réduction de service. C'est, j'ai apparence de contradiction parce que d'un côté, tu dis, on veut bonifier une offre de service pour les 65 ans et plus, puis de l'autre côté, on songe à réduire les services. Mais il faut comprendre que cette apparence de contradiction, en fait, à une explication. Ben la première, la gratuité des aînés, puis tu seras d'accord avec moi, Luc, là, ça, c'est une commande politique avec laquelle doit composer l'STM. La mairesse et son administration, en fait, Projet Montréal a pris cet engagement durant la dernière élection, et là, la STM doit livrer cet engagement. L'autre chose, c'est que ça peut nous sembler une méga nouvelle aujourd'hui, le fait que la STM songe peut-être pour 2023 à réduire certains de ses services, entre autres pour ce qui est de la fréquence des bus et des métros. Mais tenez-vous bien, ça fait près de 15 ans que l'histoire dure. Pourquoi? Parce que la STM compose avec un déficit structurel de plusieurs dizaines de millions. J'ai fait une petite recherche hier soir. Écoutez bien ça, le 7 mars 2009, la presse titrait en exclusivité « Déficit de la STM, le maire veut une solution définitive ». Et Gérald Tremblay, à l'époque, promettait qu'aucun service d'autobus ne serait retranché. 16 novembre 2010, la presse titrait encore « Déficit de 40 millions la STM ». Donc, 12 ans plus tard, la STM compose avec toujours ce fameux déficit structurel, ce qui l'oblige à chaque année, ou à peu près depuis 15 ans, à envisager la réduction de ses services. En fait, dans le passé, on lui a demandé, ben garde, réduis, essaie de couper dans le gras, là, tu sais, dans ton fonctionnement. Mais là, depuis tout ce temps qu'elle coupe dans le gras, il n'y a plus de gras à couper. Et au dire de certains experts, Luc, je peut-être serais d'accord ou en désaccord avec ça, il semblerait que la SPM est la société de transport la mieux gérée en Amérique du Nord.
Ben, alors, il y a eu un prix il y a quelques années, là. Il y avait eu une vérification. Oui. Oui, effectivement.
Exactement. Alors là, dans le fond, quelles sont les options qui s'offrent à la STM? Réduire les services, mais tu sais, dans un contexte où tu veux, t'incites les gens à prendre le transport en commun, c'est peut-être pas une bonne idée. L'autre option, c'est de dire, on va augmenter les tarifs. Ça aussi, c'est une mauvaise option. Alors, moi, je pense que la seule option qui reste à la STM, là, c'est une aide spécial du gouvernement ou des gouvernements pour, une fois pour toutes, résorber ce déficit structurel qu'elle traîne depuis 15 ans minimum. 15 ans minimum.
Oui, absolument, c'est vrai. Puis je me rappelle, j'étais là.
Oui.
Puis par ailleurs, les mesures mur à mur, c'est jamais bon. Les initiatives mur à mur, quand on coupe les personnes âgées, vont payer moins cher. Il y a plein de personnes âgées qui doivent payer moins cher, c'est clair. On les voit, elles sont pauvres, on connaît les revenus moyens. On sait que les chèques de solidarité, c'est donné à des personnes qui gagnent 25 000 et moins. Puis là, oui, mais il y a plein de personnes âgées qui ont les moyens de prendre l'autobus puis de payer pour l'autobus. Et par contre, tu sais, dans les jeunes, c'est pareil. Dans les personnes qui ont des handicaps, pour les itinérants, il y a tout un paquet de catégories de personnes qui auraient besoin de cette gratuité-là. Moi, j'aime pas les mesures mur à mur. À chaque fois qu'on fait ça, on finit par atteindre. C'est comme le chèque là, qui s'en va à toutes les familles en bas de 100 000 $. Oui, mais deux personnes qui gagnent 100 000 $, ça fait un revenu familial de 200 000 $. T'as pas besoin du chèque du gouvernement.
Non, mais alors, Luc, la gratuité, c'est bien, mais en autant que tu puisses l'assumer. Là, la STM...
Oui, en plus.
Oui, parce que le politique dit à la STM, écoutez, nous, on va faire la gratuité, puis on aimerait bien ça, vous puissiez concrétiser notre engagement, là, pour qu'on puisse dire aux électeurs montréalais, écoutez, voici, la promesse a été réalisée. Mais là, la grande question, est-ce que le 40 millions de pertes de revenus vont être compensées d'une façon quelconque
par la
ville?
Non, c'est ça, Nathalie, le problème. Le problème, il est là, c'est que le design qu'on a devant les yeux, là, excuse-moi.
Non, mais j'allais dire, explique-moi, quand on parle de réduire le service, là, ça se traduit comment?
Le métro, une minute de moins en hors-pointe, mettons.
Les fins de semaine, les hors-pointe, les bouts de ligne.
Tu sais, comme un autobus en fin de semaine à Rivière-des-Prairies va être coupé. Ça sera pas l'autobus en pointe ou le métro en pointe vers le centre-ville. Mais quand même.
Ça, c'est pas suffisant. Non, ça rapporte juste 18 millions. Absolument.
Mais attendez, là, regardez la situation. Le drame. Le drame, c'est que, avec le télétravail, la voiture devient abordable. On n'a pas réfléchi à ça. Ça te coûte 14 $ ou 15 $ pour ton stationnement au centre-ville. Là. Tu peux pas le payer 5 jours par semaine, mais si tu viens travailler une ou deux journées par semaine, tu peux te le payer. Puis par ailleurs, de façon inverse, avant, si tu prends ta passe, puis tu prends l'autobus 5-6 fois par semaine, c'est très valable de prendre une passe. Mais si tu viens travailler juste une ou deux fois par semaine, ta passe, ça vaut plus la peine d'apprendre. Fait que tu vas payer à l'unité, ça va te coûter plus cher. Mm-hmm. Fait que pendant que ton coût de déplacement en auto va baisser, ton coût de déplacement en transport en commun va augmenter. Et là, le 30% ne se comblera jamais dans ces conditions-là.
Mais exactement. Raison de plus. Puis c'est le message qu'on commence à envoyer les responsables de la STM. Il faut revoir le modèle d'affaires. Parce que là, dans le fond, on est confronté pas seulement à un problème conjoncturel, une conjoncture que tu viens de décrire, Luc, mais un problème structurel. Je parlais du déficit qu'on cumule depuis des années, qu'on suit depuis des années.
Absolument.
Mais là, les habitudes de vie changent et probablement vont changer de manière fondamentale pour le futur, parce que le télétravail, oubliez ça, c'est là pour rester. L'autre chose, en terminant, le budget d'opération de la STM est plafonné à peu près autour de 1,6 milliard depuis 2018. On est en 2022. Il y a une énorme pression pour qu'on puisse améliorer l'offre de services en transport en commun. Honnêtement, je vois pas la solution autre que celle de permettre à l'STM d'avoir accès à un plus grand financement.
Ouais, et par ailleurs, il faut se poser la question du transport lourd. Je sais que je veux pas dire qu'il faut pas faire le REM dans l'Est, là. Je veux pas dire qu'il faut pas faire la ligne bleue. Mais il faut se poser des questions, là. Dans la situation actuelle, est-ce que le transport lourd à 1 milliard le kilomètre et plus, est-ce qu'on devrait pas y aller sur les voies réservées? Donc, les voies réservées Henri Bourassa, il y en a toujours pas. Boulevard Léger, Henri Bourassa, dans l'Est, dans le nord de la ville. Je pense qu'il faut réfléchir à la question.
Très bien, on s'arrête là-dessus. Retour vendredi, le rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Rapport des commissaires, rapport de la semaine, Nathalie.
Oui, je souhaite vous faire part de quelques nouvelles inusitées cette semaine. Il a célébré son 80e anniversaire de naissance, le président Joe Biden qui a soufflé ses 80 bougies dimanche dernier, ce qui en fait, tenez-vous bien, le président le plus âgé de l'histoire américaine et le premier président octogénaire de l'histoire. Trump actuellement a 75 ans aussi, là, il va se présenter à la prochaine élection présidentielle et Ronald Reagan lui avait 77 ans à la fin de son second mandat. Joe a une recette, il ne fume pas, ne boit pas et fait du sport à tous les jours. Avez-vous vu comme il est longiligne? Hein?
Oui.
Svelte, tu dis pas de bedaine, pas en tout. Écoute, le gars, il est top shape. Là, la grande question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'il va oser se présenter pour la présidentielle, la prochaine présidentielle de 2024 et faire face à nouveau à Donald Trump? Nous aurons la réponse quelque part au début 2023. Alors, on retient notre souffle d'ici ce temps. Il a perdu 100 milliards en 2022. Vous savez probablement qui? Je réfère ce génie, Elon Musk, pas sûr qu'il est génie tant que ça, là. Mais imaginez-vous donc qu'il a perdu 100 milliards en 2022. Il a fait ça tout en conservant le sourire. Une perte, entre autres, qui est liée à la baisse de l'action de Tesla et à l'achat de Twitter. Il y a plus d'une année, sa fortune est évaluée à 340 milliards de dollars. Il a perdu 100 milliards en une seule année. On dit que 100 milliards, ça équivaut à la valeur d'une entreprise comme Airbus ou encore comme General Electric. C'est, ça vous donne une image de du gigantisme de cette perte de revenus. Malgré tout, Elon Musk demeure l'homme le plus riche du monde avec une fortune évaluée à 70 milliards de dollars. T'sais, avec une fortune comme celle-là, tu peux prendre des risques, hein, comme celui de congédier la moitié des 4000 employés de Twitter. Ce gars-là a plus peur de la fin du monde que la fin du mois, ça me semble évident. Qu'ont en commun la prévention du suicide et le papier de toilette, un article paru dans la presse qui a retenu mon attention. Les Japonais ont trouvé la réponse en inscrivant des messages de prévention du suicide sur le papier de toilette. Sur du papier de toilette, il y a 6000 rouleaux qui ont été distribués dans 12 universités du pays. Et ce que je ne savais pas, c'est que en 2020, et là, je ne sais pas à quoi ressemblent les chiffres de 2022, mais il y a eu un plus grand nombre d'enfants et d'adolescents qui se sont enlevés la vie au Japon par rapport aux données des années précédentes. Je trouve l'idée plutôt originale. Et il n'y a pas seulement des messages. Bien, il y a aussi des numéros de téléphone où les jeunes peuvent appeler pour se confier. Il fallait y penser. Faut que je vous parle absolument des vaches. Les vaches qui sont en liberté, les vaches qui ont soif d'aventure dans la région de la Mauricie.
Qui ont fait l'objet de commentaires de la sénatrice Julie Miville de Chêne.
Avez-vous entendu le message de la sénatrice?
Est-ce que c'est bon, pareil?
Mais le ton aussi, là. On avait un ton de franfreluche, je trouvais.
Non, mais
oui.
Au nom de la liberté, je me suis dit, Éric Duhem va apparaître dans le clos avec des vaches en liberté. C'est un beau symbole.
Non, mais Julie Miville de Chêne a dit qu'il y avait une leçon politique à tirer de cette histoire. Elle a dit au sénateur, écoutez, pendant que nous, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, les vaches, elles, sautent les clôtures. J'ai trouvé ça intéressant comme image. Mais honnêtement, c'est une histoire qui a fait le tour du Canada. La nouvelle est arrivée via le Nouvelliste de Trois-Rivières. Et ben, ce troupeau de vaches, tenez-vous bien, là, je vais faire une histoire courte. Là. Il y a plusieurs vaches qui sont toujours en cavale. Depuis le mois de mai, on essaie de mobiliser Sûreté du Québec, ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Agriculture. On essaie de mobiliser la SPA. Là, écoutez, avec cette histoire qui n'en finit plus de finir, finalement, la Sécurité civile a levé la main. Et là, on est en train de trouver une solution. Et il n'y a pas qu'une histoire de vache qui fait parler. Il y a une histoire d'autruche également, en Alberta, dans une ville de l'Alberta, à Taber, une ville de 8500 personnes. Il y a des autruches qui se sont sauvées de leur enclos. Alors, c'était le free-for-all dans la ville pour essayer de courir après les autruches. Et en terminant, messieurs, n'oubliez pas, simuler un sourire améliore bel et bien l'humeur. Nous a appris une nouvelle étude cette semaine.
Hey, Nathalie, t'as-tu vu la photo des cowboys qui ont couru après les vaches?
Oui.
Des beaux gars. Incroyable.
Moi, je pense qu'à Saint-Sévère, il va y avoir le calendrier
des cowboys.
Les cowboys de Saint-Tite.
Ça va payer les loisirs.
C'est vrai que c'est sexy, des cowboys. J'avoue.
OK, fait que tout va bien, on peut retourner à nos affaires courantes. Le système de justice est sur le bord de l'implosion, le système de santé aussi, le système de dons d'organes, le climat puis le réseau de transport.
Bon. Fait que là, c'est le bilan de la semaine.
Ben oui.
Cette semaine, c'est ça qu'on a appris, puis là il manque de vocabulaire, tu sais, les synonymes, l'implosion, au bout du rouleau, c'est vraiment là, il va falloir que tu aies un doctorat en synonyme pour pouvoir travailler dans les médias. Fait que là, j'ai fait une liste moi de tout ce qui va bien, des petites choses qui vont bien pour ce... Premièrement, c'est les 25 ans du Viagra. Le documentaire de Vincent Gratton sur le Viagra. Parce que tu sais, on parle souvent d'allonger la vie, mais c'est rare qu'on allonge la vitalité. Puis là, c'est le cas. Et donc, bravo.
On a une image qui nous vient en tête.
Oui. Le centre-ville se part de ses atours pour Noël. Est-ce que vous avez vu ça? Vous commencez à regarder un peu? Hein? Ça commence à être beau. Moi, je trouve ça beau. Oui. Je square Philippe, là, puis...
Mais j'ai regardé le CN en face ici, la place Bonaventure. C'est quand même...
Ça commence à être beau, je trouve. Venez faire un tour au centre-ville. La rue Sainte-Catherine, la nouvelle rue Sainte-Catherine, le nouveau square Philippe.
Est-ce qu'on pourrait avoir des cônes rouges et blancs? Ça me semble que ça se fait...
Hey, toi, dis pas du mal de Montréal. Juste pendant 15 secondes, là, parce que je dis du bien pendant 15 secondes. ça va être de plus en plus beau, je suis pas mal certain. L'armée, c'est vraiment... Allez voir au square Philippe. L'armée canadienne a délaissé les règles sur l'apparence physique. Donc, tu as le droit au vernis à ongles, les cheveux teints, les tatous. Puis, tu peux t'habiller comme tu veux en dehors. Évidemment, quand tu portes l'uniforme, tu portes l'uniforme. Là, mais quand tu ne le portes pas, l'uniforme, tu peux t'habiller comme tu veux. Même quand tu portes l'uniforme, tu peux choisir entre le pantalon de femme, le pantalon d'homme, la jupe, etc. Je parlais à un adjudant. Tu sais, les adjudants, c'est les moins commodes dans une armée. Tu sais, parce que t'as la ligne des sous-offs, puis la ligne des officiers, puis les sous-officiers, le top des sous-officiers, c'est un adjudant. D'habitude, c'est pas des commodes. Puis j'ai beaucoup aimé son ton bourru pour nous expliquer qu'il était temps de remettre de la justice, puis
la liberté.
La liberté. Puis j'ai dit, est-ce que vous faites ça parce que vous avez de la misère à recruter? Ils ont de la misère à recruter, mais on le fait d'abord pour rétablir. Fait que là, je trouvais ça vraiment touchant comme.
Mais il va falloir qu'on s'habitue, Luc. J'avoue.
Oui, oui.
Ça va nous prendre une petite période d'adaptation. Voir un soldat arriver avec du vernis à ongles, une jupe, c'est comme...
Ouais, ben, même une soldate n'avait pas le droit.
Maintenant,
c'est réglé. Rapport sur la progression du salaire des femmes, l'équité salariale, je pensais que ça serait jamais réglé, cette affaire-là, parce que, tu sais, dans les grosses usines, les alumineries, les papetières, t'as des gros salaires à 100 000 pour les gars, puis je me disais, c'est pas avec les salaires d'infirmières et d'enseignantes que tu vas réussir à concurrencer ça, mais là, on est rendu à 91% selon le dernier rapport, et ça va continuer de monter, parce que les corrections qui ont été apportées au salaire des enseignants, des infirmières, des ATP vont commencer à porter fruit. Fait que j'ai l'impression qu'on va voir le bout de cette affaire-là un jour. Je pensais qu'on le verrait jamais. Deux gars, Maxime Pearson, Samuel Tremblay, qui ont fait une plateforme pour les nouveaux pères sur comment se rapprocher de son enfant, communiquer, etc. On n'aurait pas vu ça il y a quelques années. 12 fondations qui œuvrent auprès des jeunes qui sont sortis des centres jeunesse, qui se réunissent, pour humaniser, dans un véritable souci d'humanisme, là, de dire qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là une fois qu'ils sortent des centres jeunesse. Et un des gars, qui s'appelle Zorn, Nicolas Zorn, est lui-même passé par les centres jeunesse. Donc, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ça va bien. La nomination de Fadi Daguerre, on verra s'il s'avère un bon gestionnaire ou pas, mais en attendant, il y a les formules senties des centres senti, ça sort pas de la bouche comme ça, en claquant des doigts. Quand tu dis qu'on n'est pas criminel ou le crime est un crime désorganisé en ce moment, ou l'importance d'intervenir entre les crises, c'est pas juste des slogans, c'est quelqu'un qui a pensé à son affaire. Moi, je me réjouis. Dernière chose, la ville de Laval qui décide d'investir 3 millions dans le communautaire pour parer aux crises avant qu'elles se produisent, notamment dans la violence chez les jeunes.
Merci, bon week-end à tous les deux.
C'est 23.